Voici une question qui vous est peut-être déjà venue à l'esprit. Est-il nécessaire d'être un géant spirituel pour que Dieu nous appelle à son service? Nous trouverons la réponse dans la parole de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis bien contente de savoir que Dieu va répondre à mes questions une fois de plus aujourd'hui. Demeurez à l'écoute. Je ne serai pas surprise que mes questions soient aussi les vôtres. Les voici. Devrions-nous nous méfier de ceux qui affirment faire des miracles? Pouvons-nous forcer Dieu à accomplir des miracles pour nous? La Bible dit-elle qui est derrière les conflits dans le monde? Pourquoi y a-t-il 4 évangiles? Quel est le but de l'évangile selon Matthieu? Est-ce que Dieu appelle les personnes qu'il veut utiliser? Est-ce que c'est nécessaire d'être un géant spirituel pour que Dieu nous utilise? Je suis certaine que vous avez hâte d'entendre les réponses que Dieu a données au pasteur Régent Joly pour nous. Il a la Bible en main, il est prêt à nous enseigner ce qui est écrit. Demandons à Dieu de disposer nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, on a besoin que ce soit toi qui dispose nos cœurs, pour qu'on puisse comprendre exactement ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui, qu'on puisse être vraiment enrichi par ta parole. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 4 au cours duquel Jésus appelle ses apôtres et débute son ministère public. Cependant, avant, commençons par récapituler cette période de la vie de Jésus et revoyons les items que la parole nous enseigne clairement. Premièrement, nous avons vu que la naissance de Jésus fut celle d'un roi. Il nous fut présenté comme un roi, et il fut baptisé comme un roi. Il fut aussi tenté et éprouvé afin de montrer qu'il est roi. Tout l'évangile selon Matthieu nous présente Jésus comme étant le roi. La tentation de Jésus nous révèle quelques vérités. Entre autres, nous voyons que le diable est une personne. Lors de la tentation, Jésus le traite comme une personne. Certains enseignent que le diable n'est qu'une influence, mais cet épisode dans la vie de Jésus devrait ôter tout doute au sujet de la question, surtout chez les chrétiens qui ont été exposés à un faux concept de Satan. Nous avons aussi vu avec quelle subtilité Satan a approché Jésus. Il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Autrement dit, « Prouve que tu es le Fils de Dieu, mais d'une façon autre que celle désirée par Dieu le Père. » Remarquez que Satan n'a pas essayé d'inciter Jésus à commettre un acte criminel. Ceci n'aurait pas été une tentation pour Jésus, car il n'avait aucune inclination vers le mal. Puisque le pain était une nourriture, changer des pierres en pain n'est pas un péché en soi. D'ailleurs, plus tard, lors de son ministère, il a nourri des foules avec du pain. En fait, ce que Satan essayait de faire, c'est d'entraîner Jésus hors de la volonté de Dieu, hors du plan de Dieu, son Père. De plus, nous avons remarqué que Jésus a résisté au diable en citant la parole de Dieu. Autrement dit, il a fait face à l'adversaire avec l'épée de l'Esprit. À chaque tentation, il a répondu, « Il est écrit. » Mes amis, si nous nous exercions au maniement de l'épée de l'Esprit, c'est notre arme et elle est très efficace. Enfin, remarquez que Jésus a cité le livre de Deutéronome. Dans l'histoire de l'Église, lorsque les érudits ont commencé à attaquer l'authenticité de la Bible, ils s'en sont pris fortement au livre de Deutéronome. Il semble que le diable déteste ce livre cité par Jésus-Christ afin de lui répondre. Donc, Satan prit ce livre pour cible. La deuxième tentation était aussi très pernicieuse. Le diable a essayé d'amener Jésus à s'établir comme chef religieux au moyen de manifestations miraculeuses plutôt que selon la manière prescrite par Dieu. Le sacrifice à la croix ne faisait pas partie du plan de Satan. Tout ce qui se dit christianisme, tout en rejetant le sacrifice de Christ à la croix, est en fait du diablinianisme et du satanianisme, si l'on peut le dire et parler ainsi. Le diable demande à Jésus de s'établir comme un chef religieux à l'aide d'un miracle. Mes amis, beaucoup font naufrage par rapport à la foi en se virant vers des gens qui affirment avoir le don de faire des miracles. Beaucoup de gens vont à des réunions où un guérisseur est invité. Je ne comprends pas pourquoi tant de gens se ruent vers ces réunions alors qu'une enquête révélerait qu'il ne s'y produit aucun miracle, et ce malgré tout le tapage et les émotions. De toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui affirment avoir été guéries miraculeusement par une autre personne, aucune n'a pu produire une preuve irréfutable, même si elles étaient sincères. Ces personnes croyaient que j'étais égaré parce que je n'enseigne pas que des gens ont aujourd'hui le don de faire des miracles et que je n'ai pas cru qu'elles ont été guéries. Cependant, je crois aux guérisons miraculeuses, c'est-à-dire je crois que l'on peut s'adresser directement à Dieu et qu'il peut guérir en réponse à la prière. Lorsque vous souffrez de quelque chose de sérieux, vous n'allez pas voir un infirmier stagiaire ou un charlatan. Vous consultez un spécialiste qualifié. J'ai déjà soumis mon cas à Dieu et je le recommande. Je crois que l'on peut s'adresser directement à Dieu sans l'intermédiaire d'un guérisseur qui fait des soi-disant miracles. Personne ne peut faire de miracles. Même notre Seigneur Jésus n'a pas voulu devenir un chef religieux ou un gourou de la façon suggérée par le diable. Nous avons aussi remarqué que le diable a cité la parole de Dieu lors de la deuxième tentation. Il a dit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Citation du psaume 91, verset 12. Le diable est habile pour manier la parole, mais sa citation n'est pas tout à fait exacte. Shakespeare a dit que le diable pouvait citer la Bible pour obtenir ce qu'il veut, mais en fait, il la cite à sa manière pour atteindre ses buts. Satan a omis quelques mots du verset « De te garder dans toutes tes voies ». Voilà ce que dit le psaume. C'étaient les mots les plus importants du verset, car Satan ne voulait justement pas que Jésus demeure dans les voies de Dieu. Mes amis, faire des miracles dans notre vie n'est pas toujours la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il circule un concept faux de Dieu. Dieu n'est pas un génie comme celui de la lampe d'Aladin. Nous ne pouvons pas le forcer à accomplir des miracles pour nous. Dieu est souverain. Nous sommes les créatures, il est le créateur. Nous devons nous plier à la volonté de Dieu, même si nous trouvons cela difficile parfois. Nous devons apprendre à dire à Dieu « Que ta volonté soit faite » et non la mienne. C'est la volonté de Dieu qui est importante. Lors de la troisième tentation, le diable a offert tous les royaumes de la terre à Jésus-Christ. Je vous pose cette question. Le diable possède-t-il vraiment tous les royaumes de la terre pour les donner à qui il veut? Pensez-y un peu avant d'y répondre. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Voici ma conclusion. Jésus n'a pas contesté la déclaration du diable lorsqu'il a affirmé pouvoir lui donner tous les royaumes de la terre. Jésus n'a pas dit à Satan que les royaumes de la terre ne lui appartenaient pas. Donc, le diable devait être en mesure de les lui donner. Ceci nous permet d'examiner les problèmes mondiaux sous un nouveau jour. Le diable est appelé le prince de ce monde. Des chrétiens combattent le communisme ou encore le terrorisme sans se rendre compte que Satan est derrière les problèmes et les conflits dans le monde. C'est lui notre véritable adversaire. C'est notre ennemi spirituel. Il veut devenir Dieu. En effet, il a dit à Jésus, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Au verset 11, nous avons vu que le diable le laissa. Mais nous pouvons être assurés qu'il reviendra à la charge pendant le ministère de Jésus. Débutons notre lecture. Matthieu chapitre 4, versets 12 et 13. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Jésus s'est éloigné de Jérusalem après qu'Hérode eut emprisonné Jean-Baptiste. Maintenant, il établit son quartier général au nord de Jérusalem et à l'ouest de Nazareth, la ville où il fut élevé. Il s'installe à Capernaum. Matthieu ne nous dit pas plus de détails au sujet de ce déménagement. Ceci démontre le fait que les quatre évangélistes n'ont pas cherché à rédiger des textes ayant exactement le même contenu. Les évangiles ne sont pas des copies conformes du même texte. Les tentatives d'harmoniser les quatre évangiles, d'expliquer les petites différences entre les textes, sont une erreur. Le docteur J. Vernon McGee a rédigé un petit livre intitulé « Why Four Gospels? Pourquoi quatre évangiles ?» Dans ce livre, il démontre que chaque évangile a été rédigé dans un but différent. Aucun des évangiles ne fut rédigé pour nous donner une biographie de Jésus-Christ. Personne n'aurait pu écrire un tel document. Chaque évangile s'adresse à une culture différente de la famille humaine. L'évangile selon Matthieu s'adressait aux Juifs religieux et est destiné premièrement à la nation d'Israël. Selon les érudits, le texte original fut rédigé en hébreu. Deux pères de l'Église, Papias et Eusèbe, soutiennent ce fait ainsi que d'autres personnes de cette époque. Même si Matthieu ne donne pas davantage de détails sur le déménagement, les autres évangiles nous expliquent que Jésus avait été chassé de Nazareth. Il a établi son quartier général à Capernaum, et en autant qu'on puisse voir, il y demeura le temps de son ministère public jusqu'à ce qu'il se rende à Jérusalem pour s'offrir en sacrifice pour nos péchés à la croix. Cependant, Matthieu nous donne la raison pour laquelle il a choisi de s'installer à Capernaum. Les autres évangélistes ne la mentionnent pas, mais Matthieu, qui veut démontrer que Jésus est le Christ, le Messie attendu, souligne le fait que c'est un autre accomplissement d'une prophétie. Versets 14 à 16. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Nous trouvons la prophétie accomplie dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 et 2, ainsi que Ésaïe chapitre 42, versets 6 et 7. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'explorer davantage l'histoire et la géographie de la Galilée des païens. Cependant, si le sujet vous intéresse, vous trouverez qu'étudier la condition sociale et les mœurs de cette région au temps de Christ est un exercice profitable. Rappelez-vous qu'il a été élevé dans cette région. La région fut appelée la Galilée des païens, car un très grand nombre d'immigrés de toutes les parties de l'Empire romain l'habitaient. C'était un merveilleux lieu de villégiature autour de la mer de Galilée. Mais c'était un endroit mondain et la corruption y régnait. La population ne s'intéressait pas aux choses spirituelles ni à Dieu. Le fait que Christ, la lumière du monde, y ait habité a fait reposer une lourde responsabilité sur leurs épaules. Ils ont vu de nombreux miracles, mais ils ne se sont pas repentis. Plus tard, dans Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24, il prononce une condamnation sur la région, alors qu'il dit « Malheur à toi, Chorazin !» À Capernaum, Jésus a repris là où en était Jean-Baptiste. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le message de Jésus était, « Repentez-vous, venez à moi, le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux était proche, car son roi, Jésus-Christ, était là. Il était impossible que le royaume soit proche sans la présence de Jésus. Comme je l'ai déjà expliqué, le royaume des cieux, c'est le règne des cieux établi sur la terre. C'est un royaume que le Seigneur Jésus établira un jour. Cette terre sera le ciel d'Israël, un peuple terrestre. Il passera l'éternité sur terre. L'Église a un espoir céleste, mais l'espoir terrestre d'Israël est aussi très merveilleux, et c'est l'espoir de l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus va choisir et appeler ses disciples. Lisons ensemble Matthieu 4, versets 18 et 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Dans les Évangiles, nous voyons que Jésus a appelé ses hommes à trois reprises, où il est peut-être plus exact de dire que Christ et les hommes se sont rencontrés à trois reprises. La première rencontre a eu lieu à Jérusalem, d'après Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. La deuxième rencontre a eu lieu sur le bord de la mer de Galilée, et c'est de celle-ci que le verset parle. Ils avaient déjà rencontré Jésus une première fois, mais il ne les avait pas appelés à le suivre. Maintenant, il les rencontre de nouveau sur les bords de la mer de Galilée, il les appelle à le suivre. Ensuite, ils sont retournés pêcher. Marc et Luc nous donnent tous les détails à ce sujet. Finalement, il les a appelés de nouveau afin d'en faire des apôtres. Ce qui nous étonne, c'est le type d'homme que Jésus a appelé. Je pense que puisque Jésus a choisi des hommes qui ne sont pas parfaits, il peut alors nous utiliser tous. Il est encourageant de voir qu'il n'est pas nécessaire d'être un géant spirituel afin que Dieu nous utilise. Si vous n'êtes pas un pêcheur de métier, il ne vous appellera peut-être pas à devenir pêcheur d'hommes, mais quel que soit votre métier ou votre profession, Dieu peut vous utiliser. Si vous vous consacrez à Dieu, il utilisera vos talents quels qu'ils soient. Dans une église, une dame devenait muette lorsqu'il était le temps de témoigner de Christ. Mais elle pouvait faire cuire les meilleurs gâteaux. Ceci peut vous sembler ridicule, mais en fait, ça ne l'est pas. Nous devons premièrement nous consacrer à Dieu, mais il ne nous appellera pas tous à servir dans le même ministère. Nous avons tous des dons différents. Le corps de Christ est formé de plusieurs membres, et tous ont leur fonction. Poursuivons notre lecture, les versets 20 à 22. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Nous avons ici deux hommes très intéressants, et nous ferons plus ample connaissance avec eux alors que nous avancerons dans nos études. Maintenant, retenez le fait que Jésus est installé dans le secteur nord d'Israël. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Notez que Jésus enseigne dans leur synagogue et il prêche la bonne nouvelle du royaume. Quelle est cette nouvelle? C'est que le royaume des cieux est proche, dans la personne du roi, c'est-à-dire Jésus. Ils doivent recevoir et accepter le roi. De plus, il guérit toute maladie et toute infirmité. Mes amis, à cette époque, Jésus-Christ a guéri des milliers de personnes. Matthieu nous en parle beaucoup. si nous examinons bien le texte, nous verrons qu'il n'y a pas eu que quelques rares cas de guérison, mais des milliers de personnes furent guéries. Les ennemis de Jésus n'ont jamais douté du fait que Jésus faisait des miracles. Il y avait des témoins partout. Aujourd'hui, nous avons des guérisseurs qui prétendent avoir guéri des milliers de personnes. Et même si je n'ai pas été témoin de telles choses personnellement, certains gens vont nous dire qu'ils ont assisté à ces miracles, à ces guérisons. Et même des gens miraculés peuvent en témoigner. Selon la Bible, c'est possible qu'il y ait eu miracle, mais voyez dans quel but cela leur a-t-il été permis. Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 5, nous lisons. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Chers amis, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans un des halls des miracles, dans une de nos grandes basiliques, dans un de nos grands temples religieux, à chaque béquille que vous verrez, dites-vous bien que ces gens ont manqué l'épreuve, qu'ils n'ont pas réussi et ils ont choisi d'autres dieux plutôt que d'adorer l'Éternel Dieu le Créateur. Pensez à ce texte du Nouveau Testament, cité par Jésus lui-même, que nous retrouvons dans Matthieu, chapitre 16, et versets 24 et 25. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Chers amis, les gens sont prêts à tout pour sauver leur vie présente, pour obtenir une guérison physique. Chers amis, à l'avenir, pensez-y deux fois avant d'allumer un lampion. Terminons notre lecture. Versets 24 et 25. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant chapitre 5, les versets 1 à 5.
Merci, Régent. Eh bien, je suis vraiment encouragée de savoir que Dieu n'utilise pas seulement les géants spirituels pour accomplir son œuvre, mais qu'il prend des gens comme moi, comme toi peut-être, des gens qui ne sont pas parfaits, mais qui ont des dons qu'ils peuvent mettre au service de notre grand Dieu, qui lui seul est parfait. Comme Régent nous l'a enseigné, le corps de Christ est composé de plusieurs membres et tous ont leur fonction. J'aimerais vous donner un exemple pratique. Quand j'anime le temps de louange à l'église le dimanche matin, je suis heureuse qu'il y ait d'autres musiciens qui accompagnent les chants, d'autres chanteurs, d'autres chanteuses, afin que je ne chante pas seule. Voyez-vous, je suis une alto. Dans les cantiques qu'on fait dans nos assemblées, c'est bien rare qu'un alto soit la voix qui chante la mélodie. Alors, je suis donc heureuse qu'il y ait des personnes, des sopranos, des ténors qui soutiennent la mélodie pour pouvoir amener le peuple de Dieu à chanter cette mélodie pour louer le Seigneur. On a besoin les uns des autres. Je suis heureuse aussi qu'il y ait des techniciens de son, sans quoi les gens ne pourraient pas entendre les voix qui risqueraient d'être enterrées par les instruments de musique. Je suis bien contente aussi qu'il y ait des préposés aux acétates, pour que mes frères et sœurs dans l'assemblée puissent suivre les paroles avec nous. Mais ça va plus loin que ça. Il y a quelqu'un qui est responsable de voir à ce que les lumières, l'air climatisé, le chauffage fonctionnent bien. Sans eux, ben, on risquerait d'avoir trop chaud, trop froid, ce qui pourrait affecter nos temps de louange. On a besoin les uns des autres. Il n'y a pas un membre qui est moins important qu'un autre. Je suis heureuse d'arriver à l'église puis de trouver des gens à l'accueil qui me disent bonjour, qui me font une bonne accolade. Quand on pense même que pour un verre d'eau offert à un enfant de Dieu, on ne perdra pas notre récompense. Alors, ce que chaque enfant de Dieu fait, c'est important. Selon les dons que Dieu lui a donnés, il y en a qui ont le don de service. Il y en a qui ont le don d'encourager, de consoler. Puis Dieu nous bénit à travers les dons que chaque enfant de Dieu a. Il se sert de chacun de nous pour aller vers ceux qui sont sans lui dans le monde. Encore une fois, il nous donne l'opportunité d'utiliser nos dons pour aller vers eux, leur annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. As-tu reçu ce salut par grâce? Si oui, tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Puis Dieu veut qu'on aille ensemble, unis, d'un seul cœur, qu'on prie les uns pour les autres et qu'on aille vers les gens qui ne l'ont pas encore connu, avec les dons qu'il nous a donnés. Tu as peut-être le don de chanter. Peut-être que tu peux chanter quelque chose pour attirer des gens autour de toi pour que tu puisses leur annoncer la bonne nouvelle que Jésus a payé la dette de leur péché. Tu as peut-être d'autres dons, si tu as le don de service, si c'est bien naturel pour toi. Tu peux rendre un service à quelqu'un qui est dans le besoin et par le fait même lui annoncer que Jésus l'aime et qu'il peut l'aider à bien plus que ça, plus que ce petit service, mais qu'il peut lui donner lui aussi la vie éternelle, qu'il peut faire de lui un serviteur de Dieu. Alors Dieu nous donne des dons et il veut qu'on s'en serve pour s'entraider les uns les autres et aussi pour aller vers l'extérieur, vers les gens qui sont sans Dieu dans le monde. Tenons-nous par la main, mettons nos dons en pratique et allons vers les perdus pour leur dire que le Seigneur veut les sauver pour l'éternité. Alors utilisons nos dons, qu'ils puissent vraiment servir à la gloire de Dieu, que Dieu soit réellement glorifié à travers chacun de nous.
Vous avez des commentaires, des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.